travaillons lorsque nous nous mettons en chemin dans la méditation à deux niveaux. Au niveau de la connaissance de ce qu'on appelle le monde conditionné ou le monde relatif. Ce qui est impermanent, qui change, là où il y a le bien et le mal, le jour et la nuit, la personnalité, la complexité. Le monde que nous connaissons à travers nos sens. Et pour le Bouddha, les sens, ça n'est pas seulement les cinq sens concrets, mais c'est aussi le sens psychomental. C'est un sens. C'est ce qui permet de définir le monde, d'entrer en contact. Et lorsque nous fermons les yeux et que nous observons le qui suis-je, nous pouvons voir réellement dans notre vécu que les choses sont relatives, changeantes, qu'elles sont dukkha, dans le sens où elles ne peuvent jamais être vraiment satisfaisantes. Il y a cette inquiétude existentielle qui reste toujours liée au moi. C'est la nature même du moi. Parce que nous vivons dans le temps, dans l'espace et dans la limite de la personnalité. Et il y a une autre dimension, ce qu'on appelle la réalité ultime ou le non-conditionné. Qui fait partie du qui suis-je, qui résonne, nous sentons bien que ce que ces sens peuvent nous dire n'est probablement pas tout ce qui existe. Et qu'au fond, même si nous nous sentons tout puissant et que nous sommes créateurs de notre monde, le monde que nous connaissons est extrêmement limité. C'est fascinant de penser à la complexité de tous les êtres humains sur cette planète. Il n'y en a pas deux semblables. Nous sommes tous uniques. Et pourtant tous tellement vulnérables. Le non-conditionné, c'est ce que... C'est la non-expérience. C'est ce qui n'est pas duel. Ce qui est un. Ce qui n'est pas dans les paradoxes, ce qui peut mettre ensemble le blanc et le noir, ce qui est au-delà du bien et du mal, ce qui est hors du temps, hors de l'espace. Et quand nous lions à cette dimension-là, la pensée se tait, la parole devient silencieuse parce que nous ne pouvons pas le manifester. C'est quelque chose qui est au-delà du penser, au-delà du parler. Et la présence, lorsque j'ouvre cet espace réceptif, elle fait le lien entre les deux mondes. Parce qu'elle est parfaitement intime, je peux sentir ce corps maintenant, cet esprit qui pense et qui parle. Et en même temps, je peux vous sentir qui êtes là, sentir l'espace, le silence. Et ce témoin, cette capacité réceptive, autant du moi qui est là que du moi d'autrui, qui peut juste accueillir et qui est du non-moi. Ça n'est pas lié à moi. C'est exactement la même énergie pour chacun d'entre nous. Nous nous prenons nous-mêmes comme objet de conscience, tout comme nous prenons l'autre comme objet de conscience. La seule différence, c'est que la conscience s'est arrêtée dans un moi plutôt qu'un autre, pour le temps d'une vie. Le fonctionnement du moi est un fonctionnement qui, par nature, est lié au temps, donc à la séparation. Il y a moi et mes désirs. Et ce tanha, cette soif d'aller vers, à laquelle nous sommes toujours liés. Sauf lorsque nous employons la présence. Mais dans le monde ordinaire, nous pouvons voir comment je suis toujours là et je vais un peu ailleurs. Ou lorsque nous nommons notre intention, mon intention, une belle intention, c'est important de se lier à ce qui est bienfaisant, à ce qui est noble. Mais il ne faut pas être dupe, c'est une intention. Je suis là avec le qui suis-je comme il est là, parfait dans son imperfection. Et nous avons ces intentions. J'aimerais changer ceci, changer cela. J'aimerais que le monde soit autre. Il y a une petite parole que j'ai trouvée, que je trouve très belle pour réflexion. Une intention est une vision de quelque chose que nous voulons manifester. Elle va être corrigée, transformée, modifiée, pour nous donner exactement ce que nous avons. L'intention maîtrisée, c'est de vouloir ce que nous avons. Nous sommes donc dans ces deux mondes, une intention d'aller vers, de développer ce qui est noble, et un réel du qui suis-je qui est en fait parfaitement suffisant déjà maintenant. Il n'y a nulle part où aller, n'y a rien à faire, il n'y a rien à devenir. Alors comment naviguer dans ces deux dimensions? Ce qu'on appelle tanha, nous abandonnons peu à peu cette croyance à un mieux ailleurs que maintenant. Et ce chanda qui est un désir de libération. Dans l'observation du qui suis-je, ce que nous voyons, et dans une retraite, c'est très précieux parce que c'est fin et puis ça n'a aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu là. Je suis assise sur mon coussin, tout va bien pour les jours à venir, j'ai rien à faire, on ne me demande rien. Il n'y a aucun problème sauf ceux que je me crée. Alors nous pouvons mieux voir comment ça fonctionne à l'intérieur et comment, à travers ce monde des sens, à travers le souvenir ou le contact avec quelqu'un, il y a des gens qui sont là. C'est pas rien les gens. C'est terriblement menaçant, quelquefois, et c'est terriblement nécessaire. Nous pouvons voir comment un contact touche notre sensibilité et crée quelque chose qui est agréable. Il y a beaucoup d'agréable dans une retraite. Ou quelque chose de désagréable. Et bien sûr, cet agréable ou ce désagréable est imagé. Il y a toute une image, une représentation qui vient autour de ce phénomène où le contact engendre le ressenti, l'émotion, qui engendre la représentation. Ça se passe. Nous n'avons aucun moyen d'éviter que ça se passe. Là où nous avons une certaine liberté, c'est dans la suite. Parce que la suite, c'est là où nous devenons créatifs. Et nous avons le choix de créer ce qui est bénéfique et bienfaisant, ce qui puise dans notre compassion et notre sagesse, ou de créer la panique du moi qui veut de bonnes conditions. Qui veut autre chose que ce qui est. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Nous sommes aveuglés par quelque chose qui est parfois tout à fait honorable. Nous voulons aller vers le bien, vers un bon karma, mais ça n'est pas le réel du monde. Le monde n'est pas un paradis. Il est aussi un paradis, parfois, mais il est aussi enfer. Et cette confusion entre ce que peut me donner le monde relatif, le monde conditionné, et ce que me donne maintenant le monde ultime, le monde non conditionné, fait que nous cherchons toujours à la mauvaise place. Nous cherchons dans le monde relatif ce qu'il ne peut pas nous donner. Et alors, au lieu de faire ce travail sati, la pleine conscience, qui questionne, mais comment est l'expérience maintenant? Est-ce que le corps est là? Oui, le corps est là. Ouh, il y a eu un sacré choc là, c'est très désagréable. Oui, c'est désagréable. Je peux sentir la flèche et les représentations qui disent que c'est injuste, que mais pourquoi, que je les vois, hein, ça se passe. La pleine conscience me protège d'y croire et d'aller dans les constructions qui soit maintiennent le schéma de souffrance ou essayent de le rejeter, mais ça ne fait que mettre les choses entre parenthèses. Et lorsque nous sommes assaillis par la pensée obsessionnelle qui nous dit ce que je suis ou ce qu'est l'autre ou ce qu'est la situation ou ce qu'est le monde et comme ça devrait être et pourquoi et comme je suis fautive ou comme l'autre est fautif et qui cherche une perfection là où elle n'est pas, nous avons le choix de rester dans la pensée obsessionnelle ou de voir, oh là c'est la pensée obsessionnelle, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le corps est là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée qui revient sans cesse? Il y a dukkha, il y a dukkha. Dukkha, c'est pas seulement la peine, c'est aussi cet aveuglement où je veux une harmonie qui dure toujours et qui n'existe pas. C'est cette insatisfaction et cette non-confiance des choses telles qu'elles sont. Et lorsque nous vivons une difficulté, un problème, la présence nous aide énormément à ne pas sombrer dans la confusion et à maintenir une vision claire. Parce que la vision claire, elle dépend de la confiance qu'il y a derrière. Elle dépend du travail que nous avons fait pour reconnaître l'impermanence. Et dans une retraite, c'est merveilleux parce que l'impermanence se passe et puis elle se passe sans enjeu. Je viens m'asseoir, puis c'est tout bien. C'est chouette. Ouh, le corps a pas mal. Ah, mais je suis bien concentrée, à pas trop de pensées. Tout ça. Ah, c'est bien. Et puis bon, je vais marcher, je reviens, je m'assieds. Hop. Hop, c'est plus pareil. Ah mince. Ah, ça y est, nouveau le dos qui commence. Ouf. Et puis voilà qu'il y a de nouveau l'agitation. Oh, mais j'en ai marre. J'en ai marre vraiment. Et on peut le voir. C'est du réel. Et c'est merveille. Parce que nous sortons de cette illusion d'un idéal à travers le, après lequel nous courons et que nous n'atteignons jamais. Et nous passons notre temps à courir après quelque chose qui n'existe pas. Alors que c'est tellement simple de juste venir ici maintenant avec ce qui est. Mais c'est parfois très désagréable et très douloureux, c'est vrai. Peu à peu, ce jeu de tanha, de la soif, qui fait qu'il y a un contact, un ressenti, une perception, et si c'est chouette, bénéfique, bonheur, hop, je veux, j'aime, je garde, je veux pas que ça parte. Et si c'est le contraire, il y a un contact, un ressenti, une perception, mais ça n'est pas agréable, alors je rejette, je veux pas, loin de moi, mais étant donné que j'y crois, je le saisis, et je ne permets pas à l'impermanence de faire son travail de lâcher prise. La colère, c'est très court. Ça fait choup. Et puis après, le mental saisit. Donc je le maintiens. Mais l'énergie de la colère est très courte. Si vous observez bien, c'est vraiment une montée d'adrénaline. Mais après, le mental fait une représentation. Ah, mais c'est parce qu'il m'a dit ça. Pas chouette. Et ça construit, et il y a ce cercle vicieux où le mental recrée l'émotionnel, qui recrée le mental, qui recrée l'émotionnel, qui recrée le mental. C'est ce qu'on appelle la roue de l'origine interdépendante, la roue du samsara. Nous sommes dans l'illusion elle-même, et si nous le voyons, eh ben hop, j'ai un pied dehors. Je commence à tenir mon fil rouge. Et quelquefois, le travail se fait après coup, parce que l'identification est puissante selon les ressentis émotionnels. Et sur le moment, ben voilà, ça se passe. Je réagis, ou je me désespère, ou j'y crois. Mais après coup, je peux revenir, ressentir l'expérience du moment et voir quel était le contact. Ah, j'attendais qu'il me dise ça, il ne m'a pas dit ça. Oh, puis moi, je pensais qu'il allait me dire ça. Hein? Une absence de quelque chose peut créer un monde, ou un téléphone, j'attends un téléphone, ou j'attends qu'il soit gentil avec moi, il était méchant. Alors choc, ça fait un choc, un ressenti, une perception, une histoire du passé, une histoire qui est liée sur le passé, et puis là, si la conscience est très claire, elle peut choisir. Est-ce que je crée toutes ces histoires ou non, ou pas? Et quand je le fais après coup, ben je vois bien comment j'ai créé, comment la soif m'a poussée dans d'abord la pensée et ensuite peut-être la parole et l'acte. Donc je recrée du karma à repurifier. Et c'est très bon de voir après coup comment ça s'est passé. Ça se passe bien sûr aussi avec ce qui est particulièrement bon. Quelqu'un nous fait un compliment. Oh, un petit choc. Quelque chose de très agréable. Une représentation. Ah ouais, je suis pas si mal. Et puis une saisie, et puis une construction. Ouh, mais il doit beaucoup m'apprécier. Ouais, quand même, je suis quelqu'un de bien. Mais quand c'est comme ça, nous n'avons pas particulièrement envie de voir. Hein, parce que nous nourrissons de ça. C'est pour ça que le Bouddha a parlé de l'aiguillon de la souffrance comme quelque chose d'extrêmement précieux pour grandir. Alors en retraite, nous avons ce monde conditionné qui émerveille, hein, parce que souvent le calme vient et c'est bienfaisant. Le lien à la nature devient plus clair, ça devient beau, la nature devient belle. Les goûts, quand Geneviève nous fait à manger, waouh! C'est tout autre chose que quand je suis avec des copains, qu'on cause et puis qu'on mange vaguement. Ah ouais, c'est bon, hein. Mais là, c'est vraiment bon. Ou quand on entend le chant du petit oiseau, là, tout à l'heure. C'est beau, ça touche les sens d'une manière très fine. Ou bien quand on se couche dans son lit le soir, tranquille, toute une nuit à rien faire, et puis le lendemain matin rien faire, c'est bon. Mais nous voyons aussi ces moments où tout à coup, ce qui est tellement simple et bon, ça chavire et puis tout d'un coup tout devient noir. Je me sens pas bien, je suis pas bien dans mon corps. Le mental commence à douter, à devenir confus. Et alors nous voyons cette impermanence. Permettre l'impermanence, il y a une histoire, je ne l'ai pas prise, mais qui raconte comment de faire 84 000. Non, je ne vais pas vous la raconter, je la lirai une fois. Mais permettre l'impermanence, ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de peine. Vraiment comprendre l'impermanence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de peine, il y aura la peine. Mais rien d'autre, juste la peine. Il n'y aura pas ce mental qui crée. C'est énorme. C'est énorme. Ajahn Chah qui dit « Quand les gens croient qu'ils sont les propriétaires des expériences, bonnes ou mauvaises, ou que ces expériences leur arrivent à eux, ils sont à la merci de l'impermanence. Comme tout est sujet à changer, être attaché peut seulement produire une expérience insatisfaisante. Vous êtes parfois content et parfois perturbé quand les choses vont et viennent et changent sans cesse. Il y a de la confusion si la compréhension fausse a envahi votre esprit et vous donne des images qui vous induisent en erreur. Vous finissez par porter la souffrance et c'est lourd pour vous. Quand il y a vu juste, alors un sentiment est juste un sentiment. Le plaisir est juste le plaisir, la peine est juste la peine. Il n'y a pas de propriétaire ni à l'un ni à l'autre. Le Bouddha voulait que nous contemplions de cette manière. Le vrai problème, c'est l'identification. Parce que le moi vient au centre, il se sent une petite merde, mais il vient au centre. C'est moi. Même si je suis le plus malheureux du monde, c'est moi. Et c'est très douloureux, parce que nous sommes tellement plus que ça. Et Durkheim, il le dit autrement, il dit que l'homme sache souffrir et non qu'il ne souffre plus, est la preuve qu'il est parvenu à son centre. Vu sous l'angle de l'être essentiel, vaincre la souffrance signifie être capable de souffrir sa peine. Donc, quand vous avez mal au genou, merci. Et ce que vous faites sur le coussin, ce que nous faisons sur le coussin avec les douleurs franchement douloureuses, ça fait vraiment mal. C'est un immense acquis parce que ce que nous vivons sur le coussin, c'est ce que nous vivons dans nos vies. C'est pareil. Je viens en retraite, je suis dans d'autres conditions, mais je m'amène moi. Je m'amène moi. Je n'amène pas quelqu'un d'autre. Et ce qui change en retraite va changer dans nos vies. Il y a une corrélation évidente. Et mettre la pensée à sa place, s'intéresser à elle, non pas pour la reproduire telle qu'elle nous mène en bateau, mais pour découvrir ce qu'est le qui suis-je. Qu'est-ce que je vois? C'est que au fond, il n'est pas grand-chose, mais que c'est tellement assez. Encore une petite histoire que je trouve assez chouette. La pensée d'un verre d'eau ressemble beaucoup plus à la pensée d'un gros éléphant qu'à un verre d'eau. Faire confiance à notre intelligence intuitive, faire de notre mieux parce que nous naviguons dans une forêt vierge. Nous avons les outils pour avancer. Et il y a Tanha, ce désir qui est énergétique. Je suis là et puis je suis toujours un peu ailleurs. Demande à être mis en lumière. En fait, l'illumination, c'est aussi simplement dans l'instant la mise en lumière de ce qui est là, bénéfique. Hein? Quand je dis, oh ouais, j'ai un corps là, ça va bien dans ce corps, ça va quoi, c'est comme c'est. Je le mets en lumière. Mais quand il y a aussi quelque chose de moins chouette, qui fait que tout d'un coup je doute. Et mettre en lumière, c'est l'illumination. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Et nous sentons bien que nous y sommes. Nous sommes dans la cible, même si c'est délicat et douloureux. Je vous lis encore Ajahn Chah. Le désir dans la pratique peut être un ami ou un ennemi. Comme ami, il nous pousse à vouloir pratiquer, à comprendre, à avoir des intentions, à vouloir mettre fin à la souffrance. Mais de toujours désirer quelque chose qui n'est pas encore apparu, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ne fait que causer plus de souffrance. À ce moment-là, le désir devient un ennemi. À la fin, nous devons apprendre à lâcher tous nos désirs, même le désir de l'éveil. Alors seulement, nous pourrons être libres. Et pourquoi est-ce que nous lâchons le désir de l'éveil? Parce que, au fond, nous n'avons absolument rien d'autre que le maintenant. C'est la seule chose que nous ayons. Alors autant y être. Et nous pouvons le faire maintenant, juste maintenant. Quand vous êtes dans votre corps, vous y êtes, quoi. Wow! Merveille! Ça me fait penser à cette histoire zen d'un gamin qui demandait à son père, qui était un maître zen, mais papa, dis-moi ce que c'est que l'illumination. Puis son père lui disait, t'es trop petit, tu peux pas comprendre, pas important, va jouer. Et puis un jour, il lui cassait les pieds, alors il lui a dit, bon, alors je vais t'expliquer. C'est comme si tu prenais une échelle, que tu montais sur la maison, que tu cassais la fenêtre pour entrer, hein, que tu cassais le volet, que tu cassais la fenêtre, que tu descendais l'escalier, puis en arrivant en bas, tu vois que la clé était sur la serrure. La seule différence entre un être éveillé et un être non éveillé, c'est que l'être éveillé sait qu'il l'est et qu'il a l'éveil en lui. C'est intéressant, hein? On y est vraiment. Mais on ne le sait pas. Mon amie Dasha, c'était très beau parce que je l'ai accompagnée, elle est décédée, jeune. Et puis je l'ai accompagnée, puis elle était venue faire une retraite de 10 jours, puis je lui dis, elle voulait partir, puis je lui disais, mais reste, tu verras, c'était avec Jack Kornfield, reste, tu verras, ça va venir. Puis elle me disait, mais non, je veux partir, arrête, t'as payé. Alors elle est restée. Et puis quand elle est tombée malade, elle a employé tout ce qu'elle avait vécu pendant cette retraite, je l'aidais un peu pour vraiment faire son boulot de présence. Et puis, juste avant sa mort, on l'accompagnait avec ma sœur, on était chacune d'un côté du lit. Puis à un moment donné, elle a voulu qu'on enlève la morphine, tout ce qu'elle avait, tout qu'on touche plus rien du tout. Il y avait du sang qui coulait, elle ne voulait plus rien qu'on touche. Et c'était magique. Elle était dans un monde incroyable. Et puis je me suis mise à méditer. Et je sentais où elle était, puis moi je pouvais aller un bout, mais je ne pouvais pas aller jusque-là. Bref. Et puis après, à un moment donné, elle dit, maintenant c'est fini, il faut tout remettre. Alors j'ai été chercher l'infirmière, on a tout remis. Puis je ne savais pas trop bien comment lui dire. Puis je vais vers elle, puis je lui dis, mais tu vois, Dasha, toi qui disais toujours que tu n'avais pas la foi. Et puis elle me dit, mais Anne, tout le monde a la foi. Mais on ne le sait pas. C'est beau. Je vais finir avec Pierre Guilbert, c'est un travailleur social français, je crois qu'il était prêtre. J'ai retrouvé cette petite parole très belle. Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, si tu sais regarder l'autre et toi-même avec un brin d'humour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton cœur, si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, si tu sais accepter qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain, et que tu saches y joindre un peu de ton cœur, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre. Si pour toi, l'autre est d'abord un frère. Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un. Si la colère est pour toi une faiblesse et non une preuve de force. Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion. Si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Et j'ai envie de rajouter aux paroles de Pierre Guibert. Et si tu peux juste dire merci pour rien.